Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 2 juin 2026. On commence tout de suite avec une annonce des collectes de dons solidaires qui se font pour ramener du matériel et de la nourriture du côté de la frontière franco-italienne se continue avec Seven Terres d'accueil qui nous rappelle donc cette association soutient depuis 2017 des collectes solidaires au profit de l'association Roya Citoyenne, la vallée de la Roya par laquelle passent de nombreux migrants en provenance d'Italie. Ces collectes sont organisées deux fois par an. C'est donc le but de collecter, surtout sur le secteur des Hautes-Cévennes, des dons en nature, donc nourriture, vêtements, couverture, matériel de survie et de l'argent. Les dons sont ensuite destinés à ces collectifs qui, par exemple, préparent des repas pour des maraudes quotidiennes dans la ville de Vintimille et aussi pour l'accueil quotidien qui est proposé à la sortie du poste frontière de Menton. Il reste encore 15 jours pour y participer et relayer donc cette collecte de printemps. Les besoins sont toujours là à Vintimille. Je vous le disais, de l'alimentation, mais aussi des produits d'hygiène, des tentes, des duvets, des téléphones, des chargeurs, des couvertures et des vêtements pour hommes principalement, sont demandés en tout cas par les collectifs et les ONG de Vintimille. Alors il y a une liste très précise des choses nécessaires, donc c'est pas la peine de dépasser, sinon ça leur fout le bazar dans la logistique. Vous retrouverez le fly et justement la liste des besoins sur notamment la page Eloasso de l'association, donc eloasso.com-association, Cévennes, terre d'accueil. C'est jusqu'au 15 juin 2026 et près de chez nous, c'est à Alès, au niveau de la Biocoop Soleil-Levin, que se fait le point de collecte. Sinon, il y en a d'autres au-dessus dans Euzet, Chamborigo et Genolac, si jamais vous déplacez dans les Cévennes. Et d'ailleurs, ils en profitent aussi pour rappeler que les convoyeurs solidaires, donc ceux qui vont ramener tous ces matériels du côté de la Roya, notamment à Emmaüs Roya, vont revenir chargés de victuelles justement produites dans cette ferme collective qu'est Emmaüs Roya, qui seront donc à vendre sur leur stand cet été ou à la même Biocoop Soleil Levin d'Alès, voilà. Et bien évidemment, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Vous pouvez aussi en envoyer si vous voulez faire un petit ou un gros don sur leur page Hello Asso, toujours donc Cévennes, terre d'accueil. Allez, on reste pour commencer ces infos dans le pays, du côté de Sète et du bassin de Thau. C'est le collectif Alerte LGV Thau qui va organiser ce samedi 6 juin donc une marche jusqu'à la source d'Issanka, sur la commune d'Issanka. Le but de cette marche, c'est d'alerter sur les risques que ferait peser justement sur cette source le projet de cette LGV, une ligne nouvelle de train Montpellier-Perpignan, sur les 16 captages d'eau potable du territoire. Le collectif donc Alerte LGV Thau organise cette marche depuis Frescali au parc d'Issanka pour alerter sur un des impacts les plus concrets de ce projet qui est en cours pour l'instant dans les cartons, mais qui avance. Donc c'est le projet Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan LNMP. Et ce chantier, justement, menacerait 16 captages d'eau potable, dont la fameuse source d'Issanka qui alimente la ville de Sète, ainsi qu'une grande partie du bassin de Thau. Le départ de la marche est fixé à 10h15 depuis Frescali pour une arrivée au parc d'Issanka à 10h45. Un point presse y sera donné, à l'accès du parc situé en face de la voie communale chemin d'Issanka. Quelques petits rappels sur ce chantier titanesque qui pourrait voir le jour donc aux portes du bassin. C'est un vieux projet, comme souvent, qui a été imaginé à la fin des années 80, donc une ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Elle entre maintenant dans sa phase opérationnelle. Les travaux sont prévus pour 2029 et la mise en service, elle, en 2034. Dans ce chantier sont prévus 150 km de voies ferrées sur laquelle on peut rouler à 330 km/h. Ça va traverser 23 communes, avec notamment un ouvrage massif, un viaduc de 28 mètres de haut, 1,4 km de long, juste à côté de l'étang de Thau. Il y aura aussi un tunnel sous le massif de la Gardiole et deux nouvelles gares TGV à Béziers et Narbonne. Le coût annoncé du chantier est 8 milliards d'euros, financé par l'État, les collectivités territoriales ainsi que l'Union européenne. Pour le collectif ALT, donc, qui alerte là-dessus, c'est Pierre Miralles qui en fait partie et qui explique que le but du collectif est de faire de l'information car beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il se passe. Au niveau des forages pour le chantier, ce sont des forages qui représentent un réel danger, car s'ils percent la couche supérieure de cette nappe phréatique, il y aura des risques de pollution pour tout le bassin de Thau. Le projet prévoit notamment, je vous le disais, l'implantation de ce viaduc qui s'appelle le viaduc de la Veine, pile dans la zone de captage de la commune d'Issanca et de cette source. Selon les militants du collectif, les fameux pylônes descendraient ainsi à 15 mètres de profondeur. Or, cette nappe phréatique, elle, se trouve à 20 mètres, donc il y a des risques. En novembre 2024, c'est le directeur de la mission pour la ligne nouvelle à la SNCF, Stéphane Loubrano, lors d'une réunion publique, qui déclarait que le projet ne verrait pas le jour, justement, s'il y avait un impact sur la ressource en eau. Eh bien, cette promesse, les opposants ont un petit peu peur, justement, qu'ils ne la tiennent pas, et ils entendent bien la rappeler avec cette action donc, de ce samedi. Le collectif ALT, d'ailleurs, il faut le souligner, adopte une posture de négociation hein, plutôt que de blocage, et par cela ne réclame pas l'abandon pur et dur du projet. Ils expliquent que nous ne sommes pas contre le train, mais on a besoin d'une autre ligne que l'existante qui va finir submergée, en demandant en revanche une révision de ce projet avec d'autres peut-être trajectoires possibles. D'ailleurs, une prochaine réunion publique sur le sujet, elle est prévue à 7 et ça sera le 26 juin prochain. La météo, les lotéadons, la météo. Petite dédicace à Daniel Warreau qui joue ce soir justement à 7 pour sa dernière tournée française, voilà, auquel je vais aller. Et bien justement, de la météo, on va parler climat avec cette information mondiale hein, qui concerne donc tout le monde, qui vient d'être diffusée sur le phénomène El Niño. C'est l'ONU qui annonce qu'il y a 80% de chances pour qu'un épisode modéré, voire fort de El Niño se déclenche cet été, donc très prochainement. C'est plus précisément l'OMM, donc l'Organisation Météorologique Mondiale, qui vient de confirmer aujourd'hui que ce phénomène climatique naturel, qui s'appelle El Niño, va très probablement se déclencher entre le mois de juin et celui d'août, avec une intensité qui pourrait causer chaleur, sécheresse ou intempéries monstres dans de nombreuses zones du globe. El Niño, l'enfant terrible du Pacifique, hein, ça veut dire l'enfant El Niño, c'est son surnom, est un phénomène climatique naturel donc qui se forme dans l'océan Pacifique et qui a notamment pour effet eh bien, d'augmenter la température de l'air et des océans dans de nombreuses régions du globe. Il va donc très certainement se déclencher cette année, c'est un phénomène cyclique, mais il semble que justement bah, les cycles soient de plus en plus courts avec le réchauffement climatique. Et il se pourrait même, en tout cas ça reste des probabilités, mais que celui de cette année soit l'un des plus puissants qu'on ait jamais enregistré. En effet, donc d'après le dernier bulletin de l'OMM qui est paru ce matin, il y a 80% de chances donc qu'un épisode El Niño se produise, je vous le disais, entre juin et août. Et les probabilités qu'il se prolonge au moins jusqu'au mois de novembre, elles sont quasiment au-dessus des 90%. Donc on est sur de la grosse probabilité. La plupart des modèles de prévision qui sont mis en branle pour donner ces chiffres suggèrent en tout cas que El Niño existera au moins modéré, voire fort. Donc d'après toujours l'Organisation Météorologique Mondiale, hein, qui justement agrège les données provenant d'une quinzaine de centres de prévision opérationnels dans le monde entier, les anomalies de température de surface de cette année pourraient augmenter dans le centre-est du Pacifique équatorial, bah là maintenant, à la mi-mai. Elles auraient augmenté, ce qui est le signe d'un réchauffement continu qui pourrait favoriser le développement d'un épisode El Niño. Donc c'est les températures qu'ils ont pu enregistrer ce mois-ci qui leur permettent d'affirmer cela. Et notamment l'anomalie des températures de surface de la mer, toujours pour cette région du Pacifique tropical qu'ils ont pu observer, elles étaient entre 0,8 degrés Celsius et 0,9 degrés Celsius hein, en positif. Alors qu'une grande partie du Pacifique équatorial connaît des températures sous la surface qui sont, elles, supérieures de plus de 6 degrés à la normale. Donc on est déjà sur un océan Pacifique très chaud, et c'est ça qui génère ensuite le phénomène El Niño. Il y a toujours, vous l'aurez compris, une certaine incertitude quant à l'intensité maximale, hein, ça personne ne peut le prédire, mais nous devons nous préparer à un phénomène El Niño potentiellement intense, ce qui va aggraver la sécheresse et les fortes précipitations, et augmenter le risque de vagues de chaleur, tant sur Terre qu'en mer. C'est la secrétaire générale de l'OMM, Céleste Saulo, qui rappelle cela. Et elle rappelle aussi que le dernier épisode en date, c'était en 2023-2024, ça a été l'un des 5 plus intenses jamais enregistrés. Et d'ailleurs, cette année-là, les températures mondiales records ont été enregistrées. Donc c'était en 2024. C'est la première fois depuis l'événement de 97-98 qu'on observe une telle possibilité d'avoir un très très gros El Niño. C'est ce qu'explique aussi le climatologue Christophe Cassou, co-auteur du 6e rapport du GIEC. En 25 ans de carrière, dit-il, je n'ai jamais vu de précision aussi marquée. Donc là, tous les scientifiques semblent assez inquiets et en tout cas assez sûrs de leurs prévisions. Et vous l'aurez compris, les phénomènes météorologiques extrêmes qui en découlent risquent donc de se déclencher cet été dans plusieurs zones de la planète. Je rappelle des chaleurs, des sécheresses et des intempéries monstres. El Niño intervient désormais dans un climat de plus en plus chaud sur la Terre, du fait des émissions de gaz à effet de serre produites par l'activité humaine, notamment les industries. Il pourrait contribuer à de futurs records de température. En moyenne, quand El Niño arrive, ça rajoute entre 0,2 et 0,3 degrés Celsius à la température globale, qui augmente déjà, ce qui fait que le climat mondial peut temporairement dépasser ce fameux seuil symbolique des plus 1,5 degrés Celsius de réchauffement. Toujours des plus 1,5 degrés, c'est en référence à l'ère pré-industrielle de l'accord de Paris, donc fin 19e. Ainsi, si El Niño 2027 arrive, eh bien, il a de grandes chances de détrôner 2024 de la plus haute marche du podium des années surchauffées. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui prend régulièrement la parole contre le chaos climatique, fait également le lien entre El Niño et le réchauffement, ce 2 juin, et voici ce qu'il a dit dans son communiqué. Les phénomènes El Niño ne feront qu'aggraver les effets du réchauffement climatique. Les conséquences seront encore plus graves, s'étendront encore plus loin et franchiront les frontières à une vitesse dévastatrice. La seule réponse efficace consiste à mener une action climatique à la hauteur de la crise. Mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles, accélérer la transition vers les énergies renouvelables, protéger les plus vulnérables et mettre en place des systèmes d'alerte précoces pour tous.
Enfin, c'est une longue histoire, mais je vous expliquerai tout ça.
On va parler pollution de l'eau maintenant en France. Des médecins viennent de lancer l'alerte sur la qualité de l'eau potable, celle du robinet. C'est au cours de la conférence nationale des unions régionales des professionnels de santé, qui regroupe des médecins libéraux, qui a publié ce 1er juin un communiqué de presse dans lequel justement il s'alarme d'une menace systémique insuffisamment encadrée aux conséquences sanitaires potentiellement considérables de cette pollution. D'après donc ce communiqué et leur étude, 19 millions de Français, ce qui fait environ un tiers de la population, un peu moins, auraient cette année consommé une eau non conforme, au moins une fois. Pardon, les chiffres ne sont pas sur cette année, ils sont sur 2024. Il y a toujours un petit temps de latence entre le moment où on a les résultats et où on peut sortir ensuite des études. Dans le viseur donc, de ces médecins, l'EPIFAS, avec seulement 20 substances surveillées, sur les 4000 à 15000 qui existent, donc c'est le mécanisme de surveillance qu'ils souhaitent voir renforcé. Puis évidemment les pesticides, auxquels 14 millions de Français sont exposés. Et enfin, toujours présents dans les eaux potables, les microplastiques, avec 413 particules par litre dans l'eau du robinet en moyenne. Et il rappelle que les maladies qui sont associées à la consommation de cette eau polluée sont nombreuses. Les pathologies cardiaques et cancéreuses, les troubles hormonaux et neurodégénératifs et l'hypofécondité, donc le fait d'être moins fertile. C'est pourquoi donc toujours cette URPSML, l'Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux, lance une campagne nationale d'information tout en adressant une lettre ouverte au gouvernement dans laquelle il demande une évolution de la réglementation avec notamment un élargissement des substances qui sont surveillées. Ils veulent aussi que le gouvernement mette en place améliore les systèmes de filtration des eaux, une réduction évidemment de toutes les pollutions, notamment des PFAS et des plastiques, et aussi ils rajoutent le développement de l'agriculture biologique, puisque celle-ci utilise bien moins de pesticides, voire des fois pas du tout. Les médecins prennent ainsi le relais des associations écologistes qui se battent, elles, sur le sujet depuis longue date. En avril dernier, par exemple, France Nature Environnement déposait un recours contre le gouvernement. Elle considérait en effet que le gouvernement n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger les captages d'eau de ces pollutions. Il est aussi rappelé dans ce court article qu'en octobre 2025, les ONG Génération Future et Data for Good avaient publié donc une carte interactive qui permet de savoir quels polluants contaminent l'eau potable dans chaque ville de France. Alors évidemment, ce n'est pas en temps réel, mais c'est avec les données dont ils disposent. Et cette carte est toujours possible. Le site, c'est dansmoneau.fr, donc dansmoneau, comme ça s'écrit, tout attaché.fr. Je suis allé jeter un œil, donc il y a une carte avec des couleurs vert, jaune, rouge et orange. Et par exemple, pour la commune de Ganges, eh bien, c'était des données de octobre 2025. Et les polluants qui étaient présents, mais tout en restant en dessous des seuils d'alerte, c'était des pesticides. On continue avec la pollution de nos existences, et notamment à travers l'alimentation. On revient sur le cas du cadmium, dont on a pas mal parlé il y a un mois ou deux, mais vous savez comment vont l'actualité. Les sujets s'enchaînent et des fois, il n'y a pas de suivi. Et bien justement, il y a une proposition de loi qui est en train d'être discutée dans l'hémicycle. Et c'est la droite et l'extrême droite qui se sont opposés justement à ces mesures pour réduire l'exposition de la population au cadmium. Voici comment déjà débute la proposition de loi donc, qui vise à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l'alimentation. Nous sommes la population la plus contaminée au cadmium de toute l'Union européenne. C'est ce que rappelle le député écologiste Benoît Biteau qui porte cette proposition de loi et qui doit être donc examinée dans l'hémicycle aujourd'hui. Le cadmium, je vous le rappelle, c'est un métal lourd qui est classé cancérogène certain depuis 1993 par le Centre international de recherche sur le cancer. Le cadmium va s'accumuler dans les sols, puis migre dans les plantes à travers les racines, avant d'imprégner donc directement notre alimentation de base, notamment à travers les céréales, le pain, les pâtes, mais aussi les pommes de terre. Les activités agricoles sont elles qui contribuent fortement d'ailleurs à augmenter sa présence dans l'environnement, même s'il est là présent naturellement. Elles permettent notamment une concentration puisqu'on retrouve du cadmium sous forme de fines particules dans des engrais minéraux phosphatés. Ces engrais minéraux phosphatés sont très utilisés en agriculture dite conventionnelle, donc pas de la bio, pour soutenir les rendements pour que les champs donnent suffisamment. Notamment dans tout ce qui est des céréales, etc., où on le sait, les coûts aujourd'hui sont très 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 bas et la concurrence rude. Donc ce sont avec ces engrais minéraux phosphatés que les filières françaises survivent, on va dire. Un rapport de l'ANSES qui a été publié en mars dernier confirmait une surexposition de la population française au cadmium. On en avait parlé pas mal dans les médias et à ce micro aussi. Je vous rappelle que l'imprégnation moyenne au cadmium d'un adulte en France, c'est 3 fois de plus que, par exemple, aux États-Unis, pour les adultes des États-Unis, et 2 fois de plus que pour des Italiens. Chez les enfants français, l'imprégnation est 4 fois supérieure à celle des enfants américains ou allemands, par exemple. Alors, comment expliquer cette surcontamination par rapport aux autres voisins ? Eh bien, justement, dans la législation. Puisque l'industrie agroalimentaire française est défendue fermement bec et ongle par ses lobbies au gouvernement, notamment le lobby principal, la FNSEA, eh bien l'industrie agroalimentaire française est autorisée à laisser plus de cadmium dans les engrais qu'elle va utiliser, et donc par suite, vous l'aurez compris, dans les aliments qui se retrouvent en circulation. On est sur des taux à 90 mg par kilo d'engrais phosphatés, 90 mg. En Europe, la limite maximale est bien inférieure, c'est 60 mg. Cette limite a été adoptée en 2019, donc la France ne respecte pas la législation européenne, de environ 50% de plus. Mais visiblement, même s'il y a des amendes à la clé, eh bien ça vaut largement le coup de payer ces amendes et de continuer d'empocher les bénéfices. C'est justement ces seuils de 90 mg auxquels la nouvelle proposition de loi s'attaque. Elle comporte un seul article dans la loi qui propose donc d'abaisser la teneur maximale de cadmium dans les engrais phosphatés, 40 mg par kilo pour le 1er janvier 2027, puis ça serait décroissant, hein, 20 mg en 2030. A noter que le seuil de 20 mg donc, qui est visé en 2030, il est déjà recommandé par l'ANSES dans son rapport qui a été publié donc ce mois de mars. Et par exemple, d'autres pays d'Europe l'appliquent déjà, hein, par exemple la Finlande ou la Slovaquie. La baisse de la teneur en cadmium dans cette loi se veut donc plus rapide que ce que propose pour l'instant le gouvernement dans un projet d'arrêté qui vient d'être mis en consultation publique au mois de mai et jusqu'au 30 juin, avec le scandale qui a suivi les révélations de l'intoxication au cadmium du mois de mars. Le gouvernement essaie de rattraper un petit peu la donne, alors qu'il n'est quand même pas nouvellement au courant de cette problématique. Bref, le ministère de l'Agriculture préconise un abaissement à 60 mg par kilo en 2027, donc ça c'est les normes européennes, puis 40 mg pour 2030 et 20 mg au plus tard en 2038. Donc ça c'est ce que le gouvernement, via le ministère de l'Agriculture, propose pour l'instant, et ils veulent aussi que tout ça soit fait à l'issue d'une étude d'impact. Or, explique toujours Benoît Biteau, qui dépose la loi, le temps est compté. Nous savons que l'imprégnation de la population a doublé en 10 ans. On ne peut pas se permettre d'attendre encore 12 ans de plus, comme le prévoit le gouvernement. Le vote donc sur la proposition de loi en commission le 27 mai a permis d'ailleurs de clarifier les positions de chaque groupe parlementaire. Ainsi, sans grande surprise, les députés insoumis, socialistes, écologistes, communistes, ainsi que le groupe Liot, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, ont voté pour cette loi. Ceux qui se sont abstenus, ce sont les groupes Horizon, Modem et Ensemble pour la République. Et enfin, ceux qui ont voté contre, la droite républicaine, l'UDR et le Rassemblement national. Parce que dans les argumentaires, justement, ils ont dit que ça allait mettre un coup à l'agro-industrie française et la livrer face à la concurrence sans régler aucun des problèmes. Voici ce que défend justement Benoît Biteau sur cet argument. La trajectoire qu'il propose de baisser les seuils assez rapidement est indolore pour les producteurs d'engrais, dit-il, puisqu'il explique avoir communiqué avec eux et que les producteurs disent qu'ils sont déjà sous le plafond de 40 mg de cadmium par kilo, ce qui est proposé pour le 1er janvier 2027, et qu'ils n'auront aucune difficulté à descendre sous les 20 mg en 2030. Enfin, si, je ne sais pas si c'était clair, mais le cadmium, c'est pas l'engrais en lui-même. Le cadmium, il est juste là parce que la manière de le produire, qui, je crois, se fait beaucoup au Maroc pour ce qui est des produits français, il y en a dans la terre, donc il est là et il le laisse. Visiblement, il est assez facile industriellement de se débrouiller pour qu'il y en ait moins et arriver donc sous les taux proposés. Donc les industriels pourraient visiblement suivre ces nouvelles teneurs sans trop de casse. Et d'ailleurs, continue l'élu écologiste, c'est tout aussi indolore pour les agriculteurs, puisque la décadmiation, donc le fait de faire baisser la teneur en cadmium, ne leur coûterait que 2 euros par hectare et par an, il y a forcément un petit coup de report, ce qui ne menacerait pas la compétitivité française. Les députés du RN nous bassinent avec la sécurité du matin au soir sur les plateaux télé, mais lorsqu'il s'agit de voter un texte pour protéger la santé de la population française, nos vies, il n'y a plus personne. C'est ce que dénonçait en commission Clémentine Autain du groupe écologiste et social, justement à l'initiative de la proposition de loi. Alors le texte, pour l'heure, il a quand même été adopté, sans modification, puisque vous l'avez entendu, beaucoup de gens ont voté pour la trajectoire donc proposée. Il bénéficie en cela d'un soutien transpartisan puisqu'il a été signé par des députés issus de tous les groupes, à l'exception du RN et de l'UDR, auxquels de toute façon il n'avait pas été proposé. Voilà, et donc on attend les suites. Et c'est un article qui a été écrit par Sophie Chapelle pour le média Basta.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, on va parler liberté de la presse. C'était la semaine dernière, le mercredi 27 mai, qu'au tribunal judiciaire de Nîmes se tenait un procès. Un procès intenté par la mairie de Beaucaire, à savoir Julien Sanchez et Nelson Chaudon, contre deux médias, l'Arlésienne et Street Press, qui avaient mené une enquête conjointe sur la politique de discrimination qui serait pratiquée par la mairie de Beaucaire pour l'attribution des locaux commerciaux. L'enquête incriminée, elle avait été signée par les journalistes Nada Didou et Eric Bezati et publiée dans le cadre d'un partenariat donc entre les deux médias Street Press et l'Arlésienne, et un partenariat avec le Fonds pour une presse libre, dont on va parler d'ailleurs juste après. Alors, pour du côté des attaquants, la mairie de Beaucaire était représentée par l'avocate, qui est par ailleurs députée Rassemblement National, Sylvie Josserand. Celle-ci a pris le parti d'attaquer le travail des journalistes sous l'angle de la désinformation. Et les attaquants, eux, n'étaient pas là le jour de l'audience, ni le maire actuel Nelson Chaudron ou bien Julien Sanchez, l'ancien maire, qui donc le jour du procès a été nommé directeur de campagne du RN pour les présidentielles de 2027. Côté défense, l'avocate des médias, c'était également celle de Street Press. Elle s'appelle Valentine Rébériou et elle a choisi de profiter de cette audience pour développer le fond de l'affaire. Donc, les journalistes, dans leur enquête, critiquaient ils dénonçaient la discrimination, sous-entendu raciale, pour l'attribution des locaux commerciaux dans la ville de Beaucaire et elle a rappelé le chronologique qui avait donc été mis en avant dans cet article, à savoir les actions successives des élus de Beaucaire. Ainsi, avant même d'être élu en 2014, Julien Sanchez annonçait sur BFM que la mairie fera jouer son droit de préemption pour éviter que les commerces communautaires ne s'installent. Le souk, c'est terminé. C'est ce qu'il avait déclaré en décembre 2014, hein, quelques mois après l'arrivée aux manettes de la ville. En 2015, une fois élu, Julien Sanchez lui avait pris un arrêté pour fermer les commerces le soir pendant le mois de Ramadan, qui avait d'ailleurs été cassé par le tribunal administratif de Nîmes. En 2020, en décembre, le conseil municipal de Beaucaire avait voté le plan commerce ambition en affichant sa méthode sur le site internet de la ville. Et c'est ce qu'expliquaient les journalistes. Depuis 2014, la mairie souhaite mettre la main sur de nombreux locaux vacants en centre-ville, soit en les louant, soit en les achetant, pour les maîtriser et répondre à la nécessité d'offrir une diversité commerciale. Sous-entendu, il y a trop de commerces, ce qu'ils appellent communautaires, c'est-à-dire tenus par éventuellement des gens avec des noms à consonance maghrébine. En 2023, d'ailleurs, le journal L'Arlésienne relatait déjà un premier exemple d'entrave de la mairie. Là, c'était concernant l'agrandissement d'un magasin de produits latino-américains. Ils utilisaient cette stratégie de prise en main des locaux. Il faut savoir que Beaucaire, hein, c'est une ville qui est encerclée par justement les grosses cultures agricoles qui emploient beaucoup de main-d'œuvre, notamment étrangers, et aussi des latino-américains qui transitent par l'Espagne. Pour empêcher l'agrandissement de ce magasin, la mairie avait donc loué les locaux visés par le commerçant. Donc la mairie préfère louer ou acheter des locaux plutôt que de les voir utilisés par des commerces qui ne leur plaisent pas. Enfin, toujours dans les faits, en septembre dernier, dans un dossier sur la gestion de la mairie de Beaucaire par l'extrême droite, les médias, justement, reparlaient des commerces avec pas moins de 7 témoignages, dont d'ailleurs 2 qui l'ont fait en leur propre nom. Les autres ont préféré rester anonymes, malgré donc un risque de représailles. Ce système exclut, selon eux, une partie de la population de l'accès aux locaux commerciaux. Et c'est justement cet article précisément, donc du mois de septembre dernier, que la mairie, avec ce procès, veut faire supprimer, elle veut le faire enlever du site internet, puisqu'il est toujours accessible en ligne. Et en attendant, il demande aussi à l'Arlésienne 3000 euros de dommages pour chaque partie, donc Julien Sanchez, Neslon, Chaudon et la commune. Des dommages et intérêts, ce qui fait au total 10 500 euros si on ajoute les 1 500 euros de frais irrépétibles qui ont été engagés lors du procès. Voilà, et ils font donc cette demande contre l'Arlésienne ainsi que contre Street Press. Dans le dossier étaient aussi évoquées des questions, des problématiques liées autour de la crèche ou la suppression des repas de substitution qui ont été jugés tous les deux illégales. Donc les journalistes rappellent que la mairie de Beaucaire est une mairie qui ne respecte pas la loi, en ne proposant par exemple pas des repas de substitution pour les personnes qui ne mangent pas de porc. L'avocate de la Défense a d'abord ouvert les débats en déposant des conclusions de nullité pour dire que l'attaque était nulle. Avec un argument simple, les plaignants, donc la mairie, n'ont pas précisé quel propos de l'article leur porterait atteinte. Or, rappelle-t-elle, le droit de la presse est un droit de la virgule. Dans une audience en diffamation, on ne peut pas saisir un tribunal pour l'intégralité des propos d'un article. Sans imputation précise, on ne peut pas caractériser la diffamation. En effet, les journalistes ont le droit de critiquer la diffamation. Ça joue peut-être sur des insultes ou des faits faux qui seraient rappelés ou en tout cas tronqués. Et là, ça n'a pas été du tout présenté dans le dossier de l'accusation. Donc sur le fond, elle va défendre la bonne foi des journalistes. Et rappelez, la mairie dit qu'elle n'a pas eu à s'expliquer. Or, la mairie a été sollicitée à 3 reprises, il y a les dates, mais n'a jamais voulu répondre aux journalistes. Et l'avocate rappelle que le contradictoire, qui est obligatoire dans le droit de la presse, ne se fait pas lors d'une audience. Et elle appuie d'ailleurs le sérieux de l'enquête qui a été menée par les journalistes, puisque même la Chambre régionale des comptes avait pointé des dysfonctionnements au sein de la commune, et ce, dès l'année 2020. Bref, pour l'avocate deux médias, la qualification ne fait pas de doute. Il s'agit bien là d'une procédure bâillon. Ça ne coûte rien d'attaquer, dit-elle. La demande financière est élevée. Le but n'est pas de gagner, mais de faire peur. Ainsi, la prochaine fois, les journalistes y réfléchiraient à 2 fois avant d'enquêter. C'est en tout cas avec cet effet que la menace est portée. Street Press, donc un média qui s'intéresse beaucoup à l'extrême droite, enfin exclusivement à l'extrême droite d'ailleurs, qui était aussi là pour se défendre, comptait d'ailleurs début de cette année 1 15aine de procès en cours, dont les 2 tiers initiés par l'extrême droite, qu'il soit au pouvoir ou dans ses actions plus clandestines. À noter qu'à ce jour, zéro condamnation n'ont été prononcées par les juges dans ces affaires. Voilà. Éric Bézati, directeur de publication pour l'Arlésienne, ne semble pas découragé. On ne lâchera rien, dit-il, on continuera de faire notre travail. Le tribunal, lui, rendra sa décision le 8 juillet. Et déjà, les journalistes de l'Arlésienne invitent leurs lecteurs pour un apéro le soir de la décision de justice, donc le 8 juillet. Et les bières et les dons vendus ce soir-là serviront justement à régler les frais engendrés pour se défendre. Car même si certaines fois les frais sont couverts en partie, ça coûte toujours de l'argent et ce sont des médias dont souvent les journalistes sont précaires. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer qu'en Aveyron, ce week-end du 13 juin, tous les médias qui font partie du syndicat de la presse Pas Pareil vont justement se réunir pour s'organiser et discuter ensemble de comment faire face, de lutter ensemble et de rendre plus fort ce regroupement de presse, médias, radio, vidéo et internet. Ils donnent rendez-vous donc ce samedi 13 juin à partir de 16h au Négral sur la commune de Lugan dans l'Aveyron. Il y aura un temps de rencontre et d'échange avec différents médias présents, par exemple L'Âge de Fer, Primitivi, L'Empaillé, Silence, Les Autres Voix de la Presse, InfoGM, Transrural Initiative, etc. Un repas à prix libre sera servi en suivant et une soirée en musique avec des groupes et des DJ. Et il conclut cet appel « Parce que nous avons à cœur de mettre en avant vos luttes, vos histoires du quotidien, de porter vos valeurs et vos espérances dans nos pages et nos contenus. Nous serions ravis de vous voir à cette soirée où nous pourrons directement se rencontrer. Venez nombreux et nombreux et ramenez vos amis. » Voilà, donc rendez-vous le 13 juin à Lugan 1 Aveyron pour justement rencontrer les membres du syndicat de la presse Pas Pareil. Nous, on ne pourra pas y être, mais on leur envoie bien de la force.
Ce sera tout à fait comme à la radio.
On termine ces nouvelles du monde avec un hommage à Reski Belkacem qui vient de nous quitter hier, que vous entendiez ici. Enfin, on l'entendait pas chanter, mais il a participé, il a fait tout l'album avec Brigitte Fontaine, ce compositeur indépendant et libertaire, aussi brillant que discret, donc le compagnon indissociable de Brigitte Fontaine, puisqu'ils ont signé à Reski et Brigitte pas mal de disques, est mort donc hier à l'âge de 86 ans. Il avait commencé sa carrière aux côtés de Jacques Higelin, notamment sur le label Sarava, puis a rencontré Brigitte Fontaine, avec qui ils ne se sont jamais vraiment quittés, mais il a aussi été l'auteur de pas mal d'albums solo, 3 je crois. Et donc on va s'écouter en hommage à Reski Belkacem, le morceau « Je suis venu te voir ». On se donne rendez-vous pour d'autres nouvelles du monde jeudi, et plus tard dans l'après-midi pour un numéro d'Escapade et vous.
Que je pouvais sur toi.
Et les messieurs, les messieurs.
moi. Je sais, je le connais. Se sent rien, personne ne le voit.
J'en avais pas cueilli trois bras, j'en avais pas cueilli trois bras.
À parler comme ça, à sentir tout de toi, la mort nous le vaut, sachant qu'elle n'aura jamais mon dernier mot.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.